Non, mais c'est l'événement sur RMC. Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, et l'invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir, Jérôme.
Salut Vévé.
Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bon, c'est un plaisir de.
Bonsoir.
C'est un plaisir de t'entendre, Hervé. Ça faisait un bout de temps qu'on t'avait pas eu dans les médias en France et dans Rotten sans flamme. Donc merci de nous accorder cet entretien pendant quelques minutes. Déjà. Le but de l'entretien, c'est de mettre ton livre en avant.
Ouais.
Pourquoi un livre maintenant ?
J'étais pas tellement pour. Maintenant, il y a une explication. J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Édouard Jay.
Qu'on connaît bien.
Qui fait partie de votre maison. Et on jouait ensemble dans son jardin. On avait 10 ans. Et puis après, on a joué à Aix-les-Bains ensemble, 12, 13, 14 ans, jusqu'à ce que je parte à Cannes. Donc voilà l'explication. Et il m'a dit, il faudrait faire un livre. Je lui ai dit, Edouard, je suis pas mort. il me dit, non, mais si, j'ai pas fini. Ça fait 25 ans que j'entraîne, mais j'ai pas fini. Il me dit, mais s'il faut en faire un autre, on en fera un autre. Donc j'ai accepté pour lui, mais j'ai accepté que pour lui parce que je suis un peu inconfortable avec ça.
Il y a un peu de Rotten sans flamme dans ce livre. Hein. Il y a deux, trois taquets que j'ai appréciés. Je vous laisserai découvrir tout ça. Ouais, Hervé a mis deux, trois tacles.
Pas trop,
il y a pas trop. Mais quelques-uns quand même bien adressés et qui ont été assez.
Bien adressés.
Assez marrants. Ouais. Ouais. Écoute, il y a quelques personnages mis en avant.
Ça fait partie du jeu.
Certains qui voulaient devenir calife à la place du calife.
Ouais. Voilà,
c'était assez savoureux. Je vous conseille d'aller lire ce livre.
Et Hervé, on va parler un peu de la CAN. Bon, la CAN, tu la connais très bien. Benoît le disait, deux fois vainqueur de la Cannes, donc c'est quand même un palmarès incroyable. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette Cannes au Maroc ?
J'ai trouvé qu'elle avait été magnifique. C'était comme un repas. Tout a été très bon, sauf le dessert. Aujourd'hui, l'image de l'Afrique va en pâtir un peu. C'est dommage, parce que ça a été une compétition remarquable, j'ai trouvé. J'ai suivi tous les matchs. Et malheureusement, ça s'est fini un petit peu de façon triste, on va dire. Même si on peut dire qu'il y a un beau vainqueur. Mais on reste un peu sur notre faim. Alors on va certainement oublier un peu, ça va s'estomper. Mais il y a quand même des images qui sont fortes et qui resteront.
Ouais, tu fais forcément référence à déjà l'attitude des Sénégalais qui sont sortis du stade de la pelouse pendant quelques minutes. J'imagine que toi, en tant que sélectionneur, éducateur, voir ça, voir que c'est venu du sélectionneur, ça a dû te faire quelque chose quand même.
Ça paraît irréaliste, mais je pense qu'ils se sont sentis mal à l'aise, voilà. Et donc, faut se remémorer la conférence de presse de la veille par rapport au déplacement de la veille, tout ça. Bon,
ouais.
Donc, je le connais, Papio. Je pense que c'est une bonne personne. Il a fait son mea culpa après le match. Donc, au moins, il reconnaît son erreur. Et c'est vrai qu'on peut pas se faire ça, puisque sinon, dans tous les matchs, ça serait une chaîne sans fin. Donc c'est vrai que c'est une attitude qui n'est pas exemplaire, mais parfois dans un moment à chaud comme ça, on peut faire des erreurs. Donc ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé au mauvais moment, on va dire. Quand on voit l'issue finale, on se demande comment c'est possible, quoi, que ça se termine comme ça. Et ça, maintenant, on peut plus rien faire. Hein.
Ouais. Le mal est fait, ouais, c'est sûr. Mais
voilà,
tu parlais des péripéties dans ce match. Forcément, ce qui a donné une deuxième chance aux Sénégalais, c'est cette panenka de Brahim Diaz tentée à la dernière seconde là et ratée. Là aussi, je voudrais ton regard de sélectionneur. Moi, je me suis mis dans la peau du joueur que j'ai été dans un vestiaire. Si j'avais un coéquipier qui fait ça, j'ai donné mon avis. Après, ce n'est que le mien et ça me regarde. Mais j'aimerais bien savoir, toi, le regard que tu as là-dessus. Quand tu es un sélectionneur, tu te mets à la place de Walid Regragui et tu vois ton joueur qui tente ce geste-là de folie. C'est quoi ta réaction, toi ?
On a joué au football, on peut rater un pénalty. Hein.
Ah bah oui.
Ça nous est certainement tous arrivé. Mais toi, t'avais un pied gauche magique, ça va.
Merci, Hervé.
Après, il y en a certains qui avaient des pieds gauches magiques et à qui c'est arrivé aussi, Maradona.
C'est vrai.
Donc, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est la manière. Est-ce que c'est de la désinvolture? Est-ce que c'est un moment de stress ou un changement d'avis à la dernière seconde et qui fait que, l'action est ratée ou est-ce que c'était vraiment voulu de frapper au milieu du but et en quelque sorte de marquer un but qui reste dans les annales, mais malheureusement c'est une frappe qui va rester dans les annales, mais pas pour
pas les bonnes raisons,
pas pour de bonnes raisons. Voilà.
Pour parler de personnes qui rebondissent au niveau des sélections, de nouveau t'as rebondi Hervé il y a quelques mois avec en reprenant donc l'Arabie Saoudite et là on se projette sur la Coupe du Monde, c'est plus l'actualité, ton actualité. Déjà comment tu appréhendes cette Coupe du Monde et est-ce que quand on a une Coupe du Monde à 48 on revoit un petit peu ses ambitions quand on s'appelle l'Arabie Saoudite?
L'ambition serait de rejoindre les 16e de finale. C'est même une obligation, on va dire. Même si c'est un groupe relevé, quand on sait que sur tous les participants, 6 meilleurs 3e feront partie, je dis pas de bêtises, non, c'est plus même, c'est 8 meilleurs 3e feront partie du tour suivant. Donc, ce qui fait qu'il y aura que 4 éliminés. Il faut surtout pas être dans ces quatre, quoi.
Ouais. Ça, c'est sûr. Je rappelle votre groupe, d'ailleurs, Hervé, l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay. Ce qui est difficile en termes de calendrier, c'est que vous démarrez par l'Uruguay le 15 juin, l'Espagne le 21 juin et donc le Cap-Vert, le match le plus abordable sur le papier, le 26 juin.
Ouais, là, faut pas perdre contre l'Uruguay, quoi. C'est ça, en fait.
Ouais, ce qui est une belle équipe. Et puis l'Espagne, n'en parlons pas.
Ouais. Bon, après, tu sais faire contre les grosses. Hein. T'es la seule équipe à la Coupe du Monde au Qatar qui a battu l'Argentine.
Eh ouais, dès le premier match.
Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'on sera déjà l'adversaire, notre premier adversaire sera un peu plus méfiant, parce que vous pouvez imaginer les conférences de presse avant ce premier match, bon, ça va revenir en boucle, donc là, il y aura pas d'effet de surprise ou pas de déconcentration de notre adversaire. On fera peut-être une surprise au deuxième match, qui sait.
Hervé, moi, je voudrais que tu me parles de l'Arabie Saoudite aussi. Comment ça se passe toi personnellement après ton retour, qui encore une fois a surpris plus d'un. Là dernièrement, il me semble. Alors, t'es mieux placé pour en parler, mais moi, j'avais entendu ici qu'il y avait des rumeurs de ton remplacement, ce que j'avais pas compris. Est-ce que tu confirmes qu'il y a eu des rumeurs, ça allait plus loin ou c'est que des bruits de couloir?
Bon, il n'y a jamais de bruit de couloir. Hein.
Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, alors. Ouais.
Non, on va remettre les choses dans l'ordre. Les éliminatoires Coupe du Monde, Roberto Mancini fait 4 matchs, il reste 6 matchs. J'arrive à ce moment-là, il nous reste 6 matchs. On a 4 matchs à l'extérieur, 2 à domicile seulement. Donc on va au Japon, en Australie, on fait 2 matchs nuls et on n'arrive pas à se qualifier directement, c'est-à-dire comme en 2022 pour la Coupe du Monde, on avait fini premier devant le Japon et l'Australie. Et là, cette fois, on réussit à être barragiste, mais Japon premier, Australie deuxième, Arabie Saoudite troisième. Donc on passe par les barrages. Donc là, à partir de ce moment où on s'est pas qualifié directement, c'est là où il y a eu les premiers remous. Mmh. Et je pense que des personnes voulaient que je prenne mes affaires et que je rentre chez moi. Parce que quelque part dans leur esprit certainement que j'avais pas atteint l'objectif, mais il restait encore un joker et ce joker on a réussi à l'obtenir, c'est-à-dire de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc l'objectif atteint, mais il y a toujours des choses à redire. Hein. Ceux qui m'avaient fait revenir peut-être il y a un an, peut-être qu'ils avaient oublié dans la situation dans laquelle était l'équipe.
Eh oui.
Mais ouais. Ça c'est le football, on oublie vite, c'est comme ça. Il faut de toute façon. On connaît notre métier, donc il y a eu des bruits, oui, il y a eu même un communiqué comme quoi j'étais viré.
Eh oui, ça allait loin, hein, bien sûr.
Ah là, ouais. C'est donc, mais ce communiqué n'est pas venu de nulle part, hein. Faut pas.
On
n'est pas né de la dernière pluie non plus. Hein.
Ouais.
Il y a des manipulations médiatiques qui font que certains s'amusent à les faire, mais ça fait partie du jeu.
Et Hervé, moi une question sur le niveau du championnat d'Arabie Saoudite. Alors, on a souvent Cristiano Ronaldo hein, qui nous et qui peut nous mettre une petite mine, que ça soit à la France ou à d'autres pays européens, en comparant le niveau de l'Arabie Saoudite, qui a rien à envier au niveau du championnat de France, par exemple. Toi, qu'est-ce que t'en penses dans cette progression? J'imagine que même pour toi, en tant que sélectionneur d'Arabie Saoudite, c'est quand même un bon signe envoyé, si tu veux, quand tu vois que le championnat est un peu plus relevé qu'en 2022.
Alors, il y a deux choses importantes. Déjà, le championnat d'Arabie Saoudite est d'un bon niveau. Il y a 5-6 équipes de très très bon niveau. Après, la deuxième partie, ça vaut pas la Ligue 1. Donc, c'est pas encore un championnat complètement homogène. Et ensuite, il y a deux paramètres. Le championnat progresse de plus en plus. Par contre, il y a de plus en plus d'étrangers
par équipe.
Et ils sont passés à une Champions League asiatique avec 10 étrangers, alors qu'avant, il n'y en avait plus que 4. Par exemple, en 2022, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Donc, pour faire très vite, aujourd'hui, j'ai des joueurs qui jouent de moins en moins. Et ça va devenir un très, très, très gros problème pour l'équipe nationale. Oui. Ça l'est déjà.
Est-ce que l'équipe que vous allez envoyer, que vous allez convoquer pour la Coupe du Monde 2026, sur le papier, pour vous, est plus forte que celle de 2022?
Non. Non, l'équipe, intrinsèquement, l'équipe est moins forte.
À cause de ça, alors?
C'est une raison essentielle. Déjà, à la Coupe du Monde 2022, au niveau des statistiques des temps de jeu par compétition, vous savez qu'un garçon comme Achraf Hakimi a fait 64 matchs officiels l'année dernière. Nous, on était la dernière nation au niveau de la moyenne des temps de jeu. Donc aujourd'hui,
c'est quoi en moyenne à peu près un joueur qui joue pas beaucoup comme tu dis?
Ah mais moi j'ai des joueurs qui rentrent que dans les 15 dernières minutes à chaque match, 10 minutes parfois pas. Mais alors il y a aussi ce problème, c'est que je dois me rabattre sur d'autres. Mais encore faut-il que trouver des joueurs de niveau international.
Oui. Au moins, ils vont être frais, Hervé.
Ouais. Frais pour le premier match.
Mais après,
deuxième,
la suite, ça va
moins,
être.
Et le troisième, encore un peu plus dur.
Voilà.
Hervé, est-ce que vous vous projetez au-delà de la Coupe du Monde 2026 avec cette sélection saoudienne? Je le disais, il y a un énorme rendez-vous pour l'Arabie Saoudite en termes de foot, ce sera la Coupe du Monde 2034. Est-ce que là, vous avez seulement une vision à court terme avec toutes les rumeurs qu'il peut y avoir et différents communiqués qui sont diffusés?
J'ai une vision jusqu'à demain matin.
Ouais, j'anticipe ta. Okay. Moi, j'allais anticiper ta réponse. Ouais. Et Benoît, tu vois Hervé dans 8 ans encore à la sélection d'Arabie Saoudite, alors que là, il voulait lui couper la tête, alors qu'il a qualifié l'équipe.
Ça dépend de ce qu'il fait à la Coupe du Monde.
Écoute, oui.
Il peut devenir un dieu vivant comme en Zambie ou comme dans les autres pays d'Afrique.
C'est tout le mal qu'on te souhaite.
Oui, bien sûr. Parlons de l'entraîneur et du sélectionneur Hervé Renard, parce qu'il y a plein d'anecdotes dans le livre. Donc, je le répète, moi, le foot et l'Afrique. Ce qui fait votre marque de fabrique, c'est ce lien affectif avec vos joueurs et puis avec les différents membres d'un staff, mais aussi des causeries légendaires. On va d'ailleurs diffuser un extrait de cette causerie qui a fait le tour du monde. Vous en parlez beaucoup dans le livre. C'est la causerie à la mi-temps justement de ce Arabie Saoudite-Argentine. Premier match pour vous de la Coupe du Monde 2022, écoutez.
Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him if you want. You don't feel we are able to come back? You don't feel it? C'est play, relax. Come on, this is the World Cup.
Voilà, you can take a picture if you want. Mm. Donc voilà, c'est mythique, ça fait le tour du monde. C'est quoi le secret d'une bonne causerie, Hervé Renard, alors?
Mais soi-même. De toute façon, quand on est entraîneur, on est passionné. On prépare pas la causerie de la mi-temps. On ne sait pas comment la première mi-temps va se passer. On ne sait pas quel réajustement on va devoir faire. Parfois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Parfois, il faut employer des mots qui sont durs. Parfois, il faut encourager. C'est jamais la même et on peut jamais la prédire. Après, chacun son tempérament. Là, on met 3 ans pour se qualifier pour une Coupe du Monde et c'est pas après 45 minutes qu'on doit baisser la tête et être d'un niveau moyen, même si c'est l'Argentine. Donc, il faut relever la tête. Il faut voir aussi, en étant objectif, que l'Argentine ne joue pas à un rythme encore dans cette compétition qui est le premier match très élevé. Donc, c'est là où il faut en jouer. La motivation pour jouer l'Arabie Saoudite, elle n'est pas la même que quand on joue une finale contre l'équipe de France. Tout le monde le sait. Donc, c'est là où il faut. C'est un match de Coupe de France entre une équipe de nationale et puis une équipe de Ligue 1. Il y a toujours quelque chose à jouer, mais encore faut-il croire en soi-même.
Et Hervé, quand on t'écoute et quand on t'entend comme ça sur des causeries, et puis même après à animer des matchs, parce qu'il y a les causeries, Benoît, c'est une chose, après il y a ce que tu mets en place tactiquement, physiquement avec tes joueurs, c'est totalement crédible, et la preuve c'est que t'as déjà gagné des choses importantes. Mais malgré tout, moi je reste, et on en avait parlé au Qatar, 4 ans après, la France t'avait ouvert un petit peu les portes avec la sélection des féminines. Mais malgré tout, est-ce que tu as une petite rancœur vis-à-vis du foot français qui t'a pas vraiment aidé ou vers ou tendu la main comme ça pour essayer de prendre un club important, parce que je pense que tu en as totalement les capacités.
Non, je pense que j'ai raté les deux opportunités. Ouais. C'est tout. Mais j'irai plus en Ligue 1, j'irai plus. Non, c'est, je préfère être sélectionneur. Voilà, donc j'ai pas peur de l'annoncer, de le dire, peu importe.
Merci Hervé Renard.
Merci beaucoup. Bon courage pour les prochains mois.
On rappelle la sortie du livre, Jérôme. Le livre autobiographique coécrit avec Édouard G, notre ami Édouard. Moi, le foot, l'Afrique. Le magnifique livre donc autobiographique pour Hervé Renard.
Écoute Hervé, merci et bon courage et puis bonne chance pour la Coupe du Monde.
Ouais, un grand merci à vous. Soyez forts.
Merci à vous. On l'est.
Hein. À bientôt.
Salut.
Au revoir.
19h43 sur RMC, justement, l'ami d'Hervé Renard, Édouard G, est à Berne et ça se passe bien pour l'OL, Édouard.
Exactement, puisque Schlemmer-Le-Nice a confirmé que les Lyonnais étaient toujours bien dans cette compétition. 1-0, c'était dans le temps additionnel de la première période sur une accélération de Schulz. Le centre-tir du Tchèque qui rebondit, qui est mal renvoyé, en tout cas la défense suisse renvoie très très mal le ballon et c'est Schlemmer-Le-Nice qui récupère dans la petite surface de réparation et qui du gauche va ajuster le gardien. Ça fait 1-0 à la mi-temps pour les Lyonnais. C'est assez logique, il y avait eu quelques actions et enfin ils ont concrétisé leur temps fort. C'est la mi-temps 1-0. Et messieurs, je voulais vous faire un grand merci. Merci d'avoir fait cette place pour l'ami Hervé. Merci Jérôme, merci Benoît, merci Nico et merci ma maison.
Merci
de m'accorder du temps comme ça.
Précision importante, normal, la version longue de cette interview est à retrouver en podcast sur la chaîne Rotten sans flamme avec de nombreux sujets évoqués. Donc allez vous régaler.
Tu sais que t'es un de mes correspondants préférés et tu le sais. Voilà. Donc la porte est ouverte pour toi et c'est normal. T'as fait du bon boulot et c'est normal qu'on le mette en avant.